Dutrisac.
Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
Pour vendredi, ça s'est réglé. Les membres de la FIC, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, ont rejeté l'accord de principe avec le gouvernement du Québec. On voulait renouveler leur convention collective. Ça a l'air que ça ne marche pas. Avec nous, Jérôme Rousseau, qui est co-porte-parole des négociations et vice-président à la FIC. Monsieur Rousseau, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
Eh hey boy! Dites-moi là une chose, là. Est-ce que vous avez mal compris les demandes de vos membres ou vous avez mal compris les offres du gouvernement? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, en fait, je pense que c'est le processus de négociation. On part toujours avec des besoins puis des attentes. Les membres avaient des attentes. Effectivement, dans les dernières semaines, on a tenté de trouver une voie de passage. On pensait, en faisant effectivement des concessions sur la question des définitions de centres d'activité, qu'en ayant cherché des gains supplémentaires ailleurs, on pensait que cet équilibre-là fonctionnerait et passerait auprès des membres. Finalement, on a constaté dans les deux dernières semaines qu'il y a énormément de craintes sur le terrain, il y a énormément de peurs. La perspective de PL15, une autre réforme qui vient dans le réseau dans le réseau de la santé.
M. Rousseau, je vous arrête. Parce que là, on parle au monde. Là. Vous ne parlez pas à vos membres. Puis là, les acronymes, puis les résumés. Puis là, quand vous parlez de centre d'activité,
Je peux résumer simplement.
S'il vous plaît.
L'urgence, par exemple, ça, c'est un département. C'est une unité de soins. Un CHSLD, souvent, ils sont fusionnés. Toute la bâtisse, c'est un centre d'activité. L'unité de médecine, c'est un centre d'activité. Donc, c'est un département. C'est un centre d'activité. C'est là où est-ce que les infirmières exemple, les inhalos travaillent tous les jours.
OK.
Donc, c'est un type de clientèle. Je suis au bloc opératoire. Ben moi, je travaille toujours au bloc opératoire. Je suis à l'urgence, je travaille toujours à l'urgence. Fait que je développe une expertise, je développe une habileté sur ce centre d'activité-là. Donc, un des éléments de la négociation nous a amené à revoir comment je construis ce centre d'activité-là. De tout temps, il y a déjà eu des fusions dans le réseau de la santé. Ça fait des années que le réseau vit des changements. Et dans les dernières années, notamment à Mauricie, Centre du Québec, là, puis ça, c'est très contemporain, la direction a décidé de fusionner deux centres d'activité qui sont souvent pas pareils. Par exemple, un CHSLD avec un CLSC. Donc, on se retrouve à du personnel, des infirmières qui se retrouvent des fois à travailler dans le CHSLD, des fois dans le CLSC, mais ça ne demande pas les mêmes habitudes, les mêmes habiletés, la même expertise.
OK, mais vous êtes quand même capable, parce que Gaétan Barrette me disait, tu sais, faire des transferts de département, là, des fois, c'est des jobs qui se ressemblent beaucoup, c'est juste, c'est pas dans le même département. Dans le but, mais tu sais, je comprends, vous défendez vos membres, mais moi, je suis du côté des patients, là. Puis moi, je me dis, pouvez-vous arrêter avec les points-virgules, puis j'ai pas le bon département, puis j'ai pas le bon... Pouvez-vous prendre soin du monde, puis c'est tout ce qui nous intéresse, parce qu'on paye sans arrêt pour avoir des soins. Et les gens, il y a une madame qui est morte là à l'urgence parce qu'il y a eu un mauvais triage. Il y a des gens... Pouvons-nous arrêter avec tout ça?
Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Juste les urgences. Si on décide de fusionner deux urgences, en apparence, on se dit, ben, ces deux urgences, ça devrait fonctionner de la même manière.
Ouais.
Et la réponse, c'est non, absolument pas. Juste les lieux physiques, juste les protocoles, juste les médecins. Fait que vous prenez une infirmière dans une urgence A, et vous lui dites, à matin, là, tu t'en vas travailler dans l'urgence B. Ben, il y a des risques pour les patients, justement, que vous dites, parce que les moyens de travail, l'organisation du travail, même la médication est pas placée nécessairement de la même manière. Les pompes, tu sais, tout le monde a vu un patient avec un soluté. Encore au Québec, là, les hôpitaux ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon. Puis là, je parle de deux urgences. Fait qu'imaginez quand je décide de fusionner deux centres d'activité qui sont même pas qui s'occupe même pas du même type de clientèle, c'est là que ça peut amener de l'incertitude puis de l'insécurité pour les membres.
OK, je vous suis dans votre exemple. Vous êtes à la table de négociation. Pourquoi vous n'êtes pas au gouvernement? Puis là, je vous parle à vous. Là. Je poserai la même question à Christian Dubé s'il daignait se déplacer de temps en temps. Mais vous êtes à la table de négociation. Pourquoi vous ne dites pas, dorénavant, toutes les urgences vont fonctionner de la même façon, tous les protocoles vont être pareils, et là, on va pouvoir avoir de la flexibilité?
Ça fait 40 ans que je pense que tout le monde voudrait ça.
Êtes-vous sérieux?
On va vivre une prochaine réforme de la santé qui promet justement ça. J'en suis à ma troisième réforme dans le réseau de la santé. Moi, c'est depuis les années 2000 que je travaille dans le réseau. Puis à chaque fois, c'est les promesses qu'on nous dit. En fusionnant toujours de plus en plus gros, on va être capable d'unifier les pratiques, harmoniser le travail, mais c'est tellement pas le cas.
Pourquoi?
Plus les machines sont grosses. Faudrait poser la question à M. Dubé puis au gestionnaire dans le réseau. Exemple des CIS et des CIUS qui ont été fusionnés. Prenez Mauricie-Centre du Québec. Là, on va de Victoriaville à Drummondville en passant par Trois-Rivières jusqu'à Chaoui puis la Tuque. C'est aussi gros que la Suisse à gérer comme étendue de territoire géographique. Puis encore aujourd'hui, il y a dans les départements, on ne permet pas le travail, par exemple, d'une infirmière auxiliaire. Elle ne peut pas nécessairement faire le même travail de Shawinigan à Trois-Rivières ou à Victoriaville ou à Drummondville.
Pourquoi?
L'organisation du travail, parce que les gestionnaires réussissent même pas à s'entendre. Ils ont de la misère à savoir réellement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et ça, on le vit au quotidien. Ça fait des années et des années qu'on dénonce ça.
Là, c'est important,
c'est
ça.
C'est pas les réformes qu'on est en train de faire qui vont changer encore à court terme.
Donnez-nous un exemple, M. Rousseau. Là, vous parlez des gestionnaires. Oui. Parce que des gestionnaires, là, excusez-moi, mais on va y crisser à la porte là, si ça fait pas. À un moment donné, il faudrait prendre des décisions, autre chose que nommer un Top Gun, puis créer une autre agence, puis une autre patente à gosse, par-dessus la bureaucratie, qui est déjà... Donnez-moi des exemples concrets, là, parce que les gens veulent comprendre pourquoi vos membres ont rejeté l'entente de principe. On pensait que la chicane était finie.
En fait, ce que je décode pour avoir été dans les deux dernières semaines dans plusieurs assemblées, les membres ne font pas confiance actuellement au réseau puis aux gestionnaires du réseau, notamment sur la question du centre d'activité, mais le reste aussi. On s'en va vers une méga fusion. Au Québec, là, d'ici quelques mois, voire une année, il va y avoir un seul établissement de santé avec la promesse que on va aplanir les problématiques. Et les deux dernières réformes ont démontré que c'était le contraire qui se passait. Plus on grossit, plus ça rend la résolution de problèmes extrêmement complexe. Donc, il y a des fausses promesses actuellement qui sont donnés aux gens sur le terrain, puis à la population, puis nos membres, on ne croit pas qu'est-ce qui s'en vient. Donc, par exemple, pourquoi on n'introduit pas des infirmières auxiliaires dans toutes les urgences au Québec? On manque de personnel dans les urgences, on sait les temps d'attente dans les urgences. Pourtant, les infirmières auxiliaires peuvent contribuer au travail dans les urgences, mais il y a encore des directrices de soins qui refusent d'introduire les infirmières auxiliaires dans des urgences au Québec.
Un
exemple.
Et pourquoi elles refusent et qu'est-ce qu'elles feraient concrètement, là, les infirmières auxiliaires?
En fait, une infirmière puis une infirmière auxiliaire, c'est souvent un team, c'est un duo. Ces deux professionnels-là travaillent ensemble, ils se partagent les tâches, ils prennent soin d'un groupe de patients. Donc, ça appartient à l'infirmière par l'infirmière auxiliaire à se départager les tâches. Donc, c'est vraiment une contribution, même titre qu'un préposé. Les préposés font partie aussi de l'équipe de soins. Donc, on parle d'une équipe qui est capable de prendre soin. Puis, quand il manque de personnel, ben c'est là qu'il faut réfléchir à comment on peut faire les choses autrement. Là, dernièrement, on a vu nos IPS là qui vont être capables d'inscrire des patients. Donc, on est capable de donner des tâches à d'autres professionnels dans le réseau de la santé pour être le plus efficace. Mais ça reste tellement complexe. C'est tellement long.
Puis en même temps,
il manque de direct.
En même temps, M. Rousseau, là, vous avez beau avoir 75 infirmières, s'il n'y a pas de maudit médecin à l'urgence, comme c'est toujours le cas, vous servez à quoi?
Il y a des IPS qui peuvent introduire. Évidemment, tous les professionnels sont importants. Je suis en train de dire que c'est plus les infirmières que les médecins. Dans les urgences, ça prend, oui, des médecins, mais ça prend des infirmières, ça prend des infirmières auxiliaires, ça prend des préposés. Puis ça prend surtout, parce qu'une urgence, c'est un symptôme, l'urgence, quand ça va mal. C'est parce qu'à l'étage, dans l'hôpital, il n'y a pas de place pour monter les patients dans des lits.
Ouais,
pourquoi? Parce que les lits sont occupés souvent par des gens qui ne sortent pas de l'hôpital.
Redescendons à l'urgence, là, M. Rousseau.
Oui?
Quand on est à l'urgence et on attend 13, 14, 15 heures, après, même si on a payé nos taxes, nos impôts, toute notre vie, là, puis on saigne de partout... On nous dit jamais, excusez-nous, on n'a pas d'infirmière à l'urgence. On nous dit tout le temps, il n'y a pas de médecin. Le médecin est occupé, il y en a un, puis il est occupé. Vous chicaner, mais les gens qui vous écoutent, là, disent, hey, on s'en fiche, on veut être soigné. puis on veut pas être soigné, puis on veut pas que ça prenne 15 heures pour être vu par un médecin d'urgence. Puis quand on veut appeler quelqu'un, on veut avoir du service là. Puis on n'a pas l'impression que vous êtes là-dedans, vous êtes dans la défense de la façon de travailler, puis il faut pas trop vous bousculer, puis faut pas à un moment donné.
Non, je pense que les gens sont à écouter, là, ça fait là, comme je dis, la troisième réforme, on en a vu d'autres, il s'en est passé dans le réseau, on est capable d'absorber, on vient de passer une pandémie. Je pense que la volonté puis la contribution du personnel du réseau, des professionnels en soins, est absolument pas remis en question, au contraire. Cependant, dans ce que vous nommez, l'urgence, comme je dis, c'est un symptôme. Pourquoi il y a autant de personnes qui vont à l'urgence? Parce qu'ils sont pas capables d'avoir accès à leur médecin de famille dans un GMF, dans une clinique qui est ouvert du lundi au vendredi ou très peu la fin de semaine.
Ouais.
Malheureusement, c'est la fin de semaine qu'on aurait besoin de consulter, puis souvent par débit, les gens vont se ramasser à l'urgence.
Ouais.
Donc, de quelle manière on peut mieux prendre soin de la population? Il y a une solution qui n'est pas que médicale, ça prend pas juste des médecins. Les IPS peuvent contribuer, les super infirmières, comme on entend, peuvent diagnostiquer, peuvent traiter, peuvent suivre à l'urgence. Il y a même des choses que les infirmières pourraient faire à l'urgence tout de suite au triage. Il y a des fois des infirmières qui sont capables de réorienter. Donc, le réseau de la santé, ça reste une grosse bête complexe. Puis c'est pas juste un département, c'est l'ensemble du réseau qu'il faut regarder dans son ensemble.
Mais on peut pas toujours revoir l'ensemble du réseau, Monsieur Rousseau. Moi, je comprends ce que vous dites là, puis vous étiez là pendant la COVID, puis faut le souligner. Puis on vous a imposé à vous, les infirmières, des conditions de travail qu'on n'imposera pas aux gars de la construction. T'sais, on le sait, là, on compte sur le dévouement des infirmières comme le dévouement des enseignantes pour vous en mettre toujours plus sur les épaules. Alors là, le TSO, là, le temps supplémentaire obligatoire, vous dites, on sait définir en cas d'urgence. Est-ce qu'on peut définir c'est quoi un cas d'urgence? Puis est-ce qu'on peut rapidement s'entendre là-dessus et pas demander aux infirmières de faire des chiffres de 16 heures parce que les gestionnaires ont un doigt dans le nez et savent pas comment gérer le personnel?
C'est ce qu'on a adressé dans le cadre de la négociation. Manifestement, les membres nous ont dit que c'était pas assez. C'est l'exercice qu'on est en train de faire à la FIC. On est en train d'analyser avec les équipes syndicales. Il y a eu beaucoup d'assemblées, beaucoup de choses ont été dites, notamment dans les médias sociaux. On est justement en train d'aller colliger cette information-là. On va se revoir avec notre délégation dans les prochaines semaines pour faire l'analyse de ça, puis se dire, bon, comment on solutionne la suite des choses? De quelle manière on la conclut, cette négociation-là? Puis, je suis clair, on réglera pas tous les problèmes du réseau de la santé, mais de quelle manière on peut pas empirer ce qui est en train de se passer? Puis, ça passe notamment par le respect des gens qui travaillent actuellement dans le réseau. Les gens ne veulent pas se ramasser, être déplacés n'importe comment, n'importe quand.
Non, mais on a des besoins dans le réseau. On a besoin de vous déplacer.
On a des besoins.
OK, mais là, avez-vous réglé les infirmières d'agences privées qui avaient les meilleurs horaires? Est-ce que vous avez réglé ça?
Oui. Ça faisait partie de l'entente de principe. On donnait une priorité aux gens du réseau de la santé qui ont resté fidèles. Donc, ça faisait partie des éléments.
OK. Donc, ça, là-dessus, vous êtes satisfait?
Je l'ai entendu de la part des membres, effectivement, dans les assemblées qui étaient satisfaits de ce volet-là.
OK. Qu'est-ce qui reste à régler, là? Les primes pour les périodes des fêtes puis les vacances, est-ce que c'est réglé aussi?
Ben, ça fait partie des éléments, puis c'est pour ça que j'ai pas tout, parce que moi j'ai participé à beaucoup d'assemblées. C'est l'exercice qu'on est en train de faire, là, justement, aujourd'hui, dans les prochains jours. Il faut aller colliger tout ce qui a été dit dans les assemblées, tout ce que les membres nous ont dit. Moi, ce que je suis capable de vous nommer, ce que j'ai entendu de façon régulière, c'est la question des fusions. Il y a une crainte d'avoir des fusions qui vont être faites de la part des employeurs n'importe comment. Et ça, l'exemple de Mauricie Centre du Québec est un exemple.
Okay.
On l'a entendu beaucoup. Ça, c'est l'élément, je vous dirais, que j'ai entendu le plus. Il reste d'autres éléments que j'ai entendus, mais il reste à les colliger pour être capable qu'on en discute ensemble comme délégation puis qu'on se dit, bon, comment on reprend ça avec le gouvernement, la négociation, une fois qu'on a fait ces constats-là?
OK, c'est pas,
qu'est-ce qui manque?
C'est pas simple, là, parce que là, on rejette l'entente, mais vous avez pas les données exactes à propos des raisons là, qui justifient ce rejet-là. Vous savez, savez-vous qu'est-ce que vous devez aller renégocier?
C'est l'exercice qu'il faut aller faire. Moi, j'ai entendu des choses dans les assemblées. Là, tout ce qui s'est passé, c'est un vote. C'était oui ou non. Là. Fait qu'avec un oui puis un non, on pourrait l'analyser. On manque de données. Donc, on est en plein processus d'aller préciser le pourquoi les gens ont dit non massivement.
Ouais.
Fait que c'est justement ça qu'on est en train de faire. On va questionner nos délégués, on va échanger avec elles pour voir, se faire une tête ensemble pour dire, OK, qu'est-ce que ça prend pour être capable de conclure la négociation?
OK. Vous êtes, selon vous, là, à quel pourcentage d'acceptation? Là? T'sais, qu'est-ce qui vous manque pour que ça passe?
C'est le bout qui me manque,
en fait, dire, hein?
De savoir concrètement, parce que je serais prétentieux de dire que c'est exactement cet élément-là. Il faut prendre le temps de faire le tour de la question avec notre délégation pour voir comment on va être capable de conclure.
Hey, c'est particulier. Avant qu'on se quitte, M. Rousseau, là, est-ce que c'est à Montréal que ça passe pas? C'est en région, j'avais l'impression que c'était un peu plus, ça passait un peu plus, non?
Non, il ne faudrait pas de tirer des conclusions comme ça. Effectivement, à Montréal, il y a beaucoup d'établissements que ça n'a pas passé, mais en région aussi, il y a dans des régions que ça n'a pas passé. Donc, faudrait pas conclure que c'est Montréal et les régions, absolument pas. C'est un peu plus complexe que ça. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien analyser les choses puis de revenir avec le gouvernement avec une piste de solution qui va convenir.
Faites attention, hein. Moi, j'ai deux lettres pour vous, hein. SQ. La Sûreté du Québec a refusé 21% sur 5 ans, puis le dossier est tombé en dessous de la pile. Avez-vous l'impression que ça peut vous arriver?
Je corrige.
Allez-y.
Les policiers ont refusé 21%, c'est faux. Ils ont refusé 14% d'augmentation de salaire et le reste, c'était des primes.
Les primes, là. Ça va dans leur poche.
Mais c'est pas du salaire, en fait. C'est pas du salaire. Les primes n'étaient pas nécessairement pour tout le monde. Fait que ça fait partie aussi de tous les éléments qu'il faut prendre le temps d'analyser.
Oui, mais en tout cas, quand on fait des offres, puis à un moment donné, on s'entend, puis là, tout à coup, les membres disent non, là, tu dis... Puis en plus, vous n'êtes pas capable de me dire, voici exactement les raisons pour lesquelles les membres ont refusé.
Je suis capable de vous dire que sur la question salariale, là, oui, on reconnaît que les offres salariales sont importantes. Puis c'est pas les éléments majeurs que j'ai entendus dans le cadre des assemblées. C'est pas qu'une question financière et d'argent. C'est une question d'organisation du travail, comme je vous disais, une question de respect aussi dans le cadre de fusion éventuelle. Fait que tout n'est pas juste une question d'argent, puis ça, je l'ai entendu de la part des membres.
Jérôme Rousseau, co-porte-parole des négociations et vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Merci et bonne chance.
Merci.